insisté, Alexis, dans cette compo?
Une première ligne quand même assez classique hein, sur ces dernières semaines.
Qui se connaît par cœur.
Voilà. Ouais. Thibaut Flamand, Richie Arnold, Richie qui a plus tendance à être sur le banc ces derniers temps. Donc voilà, je trouve ça normal de lui donner un petit peu de temps de jeu. Mathis Castro Ferreira qui voilà aussi qui fait des rentrées exceptionnelles et qui a tenu la baraque pendant les doublons. Non, je pense que voilà, on peut parler de Juan Cruz Malia qui est un peu le couteau suisse de des trois quarts toulousains et ça peut être aussi une clé du match face à Joris. Donc voilà, on va voir comment il peut se comporter, mais il a été auteur de super matchs aussi de doublons, donc je suis pas trop inquiet.
Ouais, sachant qu'évidemment toujours la polyvalence des Ogaronais permet toutes les imaginations. Thomas Ramos pouvant glisser en 10, Ange Corpozo pouvant glisser en 15. On a des joueurs polyvalents. Vous n'êtes pas polyvalent, vous signez pas au Stade Toulousain aujourd'hui, c'est incroyable.
Hein, ouais, c'est vrai que au début. Quand je jouais, c'était pas trop une qualité parce que justement on nous mettait sur le banc. Mais non, ouais. Maintenant c'est vrai que non. Puis les mecs sont très bons techniquement dans tous les domaines, la passe, le jeu au pied, le plaquage, la défense, l'attaque. Ils ont toutes les armes pour pouvoir jouer partout quasiment du, je dirais pas du 9 au 15, mais voilà, c'est vrai que bon, on a des centres qui peuvent passer à l'aile très facilement. On a Thomas Ramos qui peut passer en 10. On a Antoine Dupont qui joue 9-10. Voilà, on a quasiment à tous les postes, on a des joueurs qui peuvent jouer deux ou trois postes.
Bon, mais c'est la composition. En effet, des rouges et noirs du président Didier Lacroix, qui est bien évidemment présent hein, parmi les supporters du stade Ernest Vallon, qui fait encore comble, sale comble, avec cette affiche du dimanche soir. Allez, c'est l'occasion de rendre hommage à Claude Nougaro avec le Haut Toulouse qui, vous en avez l'habitude, est chanté en mode karaoké lors des avant-matchs. L'occasion pour nous de vous dire que le stade toulousain, qui est réputé pour son jeu de contre, son jeu dans le désordre, quand même la deuxième équipe en termes de possession de balle. C'est vrai que c'est La Rochelle qui, avec sa signature O'Gara et un petit peu irlandaise et massive, et là l'équipe qui possède le plus de ballons. Mais je suis surpris, c'est vrai, par cette statistique. C'est-à-dire que avec notamment, je sais, David Mellet qui a dû réfléchir au lancement de jeu, Toulouse voilà, a besoin aussi de porter les ballons, créer des choses pour avoir des certitudes en face.
Et ouais, et puis créer du danger un peu partout sur le terrain, même en contre-attaque. On va le voir tout à l'heure peut-être sur un coup d'envoi qu'ils réceptionneront, j'espère pas trop d'ailleurs pour eux, mais on les a vus porter le ballon souvent et relancer depuis leurs 5 mètres, depuis leurs 22 mètres, et trouver de l'avancée franche jusqu'à leurs 40, 50, voire dans les 40 mètres adverses, et ça leur réussit plutôt bien. Donc ça compte aussi dans le jeu de possession et le jeu. Et après, quand on peut s'appuyer sur des Graou ou des Dupont qui ont des coups de pied phénoménaux, c'est voilà, c'est tout bénef.
Bon, mais là il manque plus que les acteurs. On est en train de rendre hommage à la chaîne du Top 14 qui a mis les petits plats dans les grands, le présentateur de la Formule 1 qui va taper le coup d'envoi fictif. On a aussi le CRC qui a été délocalisé ici en bord de Garonne. On a un typhon, rouge et noir au Toulouse magnifique d'un côté. Voilà, le feu qui s'invite évidemment aussi à cet avant-match, comme vous en avez l'habitude sur 100% match à suivre en direct en intégralité. Il n'y a plus qu'à faire entrer les acteurs de cette rencontre qu'on espère évidemment au niveau. Toulouse qui va tenter de mater ce stade français et de lui repasser devant au classement, de marquer peut-être des points aussi si jamais il venait à se retrouver a priori, si c'était le cas, ça devrait être en finale qui, on le rappelle, aura lieu à Marseille cette saison. Un petit mot, Alexis, la Pro D1 aussi est en train de livrer un petit peu son verdict. Brive, ils vont se qualifier, ils vont pas se qualifier?
On n'y croyait pas, et puis finalement là sur ce match ils se relancent complètement et il semblerait que ils vont le faire hein. Ouais. Tant mieux pour eux. Moi je suis un peu déçu pour les Columérins, les anciens, qui sont les trop, anciens voilà, copains, donc ça va être c'est fini malheureusement pour eux, mais c'est vrai que ça a été puis des belles surprises comme Dax, par exemple.
Incroyable. Première fois qu'un promu participe au phase finale.
Ouais, puis c'est pas démérité.
Ouais. Sacrée équipe en tout cas, et c'est vrai que c'est pour les deux. À l'attente, en haut, en bas aussi, Biarritz, Montauban, Rouen qui inquiète leurs supporters. Allez, les acteurs sont prêts, ils sont dans le couloir, les entraîneurs sont déjà au bord du terrain. Hugo Moulin, Jean Bouillou d'un côté, on a Karim Ghezal de l'autre, on a Laurent Lavie qui est en hauteur dans les tribunes, en communication évidemment, HF, on a Clément Poitrenaud, entre autres, ou aussi Laurent Thuy, Jérôme Caïnon et Virgile Lacon, pour citer l'ensemble du staff rouge et noir qui sont en hauteur aussi dans le Venturi, il est en bande pelouse, qui vont là aussi échanger beaucoup. Et puis on a Sébastien Chalat évidemment qui continue de signer des autographes par-ci, par-là.
On a des gradins pleins aussi pour un dimanche soir à 21h. Ouais.
C'est agréable. C'est très agréable en effet à voir. C'est important en effet, ouais, cette connexion des coachs vraiment avec ceux qui sont aux tribunes. On va pas révolutionner le match, mais il va y avoir quoi, des détails peut-être sur certains lancements, sur certains modes de défense. Alors, à quoi ça sert finalement d'avoir des coachs en hauteur?
C'est vrai que Satouzan était un peu pas précurseur, mais voilà, ils ont quand même, ça a été eux les premiers à mettre des spécialistes voilà chaque secteur du rugby, parce qu'il y a un entraîneur des trois quarts, il y a un entraîneur de la défense, il y a un entraîneur des avants, il y a un entraîneur de la touche, il y a un entraîneur de la mêlée. Et c'est vrai que tous ces acteurs-là font un rapport du coup à Hugo Mola. Ils essayent de regrouper les informations et de donner, pour avoir parlé avec Virgile Lacombe, un minimum d'informations à la mi-temps pour que les joueurs puissent refaire leur stock de glutamine, donc d'énergie, et puissent repartir et ne pas avoir de coup de mou à la seconde période. Donc oui, c'est très important cette communication.
Les voici, les gladiateurs qu'on attend tous, les noirs et rouges du Capitole seront sur votre gauche, les soldats roses seront sur votre droite. A priori, ce sont eux et Joris Segond qui vont taper le coup d'envoi. Le staff des référés, le squad arbitral emmené, on le rappelle, par Luc Ramos, c'est de bleu ciel et noir vêtu. Il y a eu des flammes, il y a eu des feux d'artifice. Rendez-vous au premier virage pour évidemment utiliser l'expression de l'animateur présentateur de Formule 1 sur la chaîne qui diffuse le top 14 de façon historique, qui vient de taper le coup d'envoi et on va avoir place maintenant tout de suite au premier au coup d'envoi évidemment de Joris Segond qui va essayer de déstabiliser à lui seul cette équipe toulousaine. On a qui est Pierre Louis Barassi tout de suite vers les 40 mètres pour vérifier qu'il n'y ait pas un renvoi court. On voit Joris Segond positionné plutôt sur la gauche. Allez, monsieur Ramos qui va permettre le coup d'envoi. Évidemment, ça va être tapé haut et fort sur la droite avec Roumat qui va capter dans les airs avec un super soutien. Tout de suite, on passe par le sol. On est justement les 22 mètres stadistes. On est là-bas à l'opposé de la tribune, notre tribune officielle, aux 5 mètres de la touche. Tout de suite, on part sur le premier contact. On est en train d'essayer, a priori, d'ouvrir l'angle du buteur.
On va avoir droit au fameux petit train pour que Paul Graou puisse dégager son camp. On l'est en situé hors des 22, donc je pense qu'il va mettre un jeu au pied très haut de pression. C'est fait.
Allez,
et c'est récupéré par Lebel.
Récupéré dans le couloir des 5 justement avec ce premier duel aérien. Ça aussi c'est un secteur qui est hyper important. On a Cyril Baye qui vient au défier, mais face à deux défenseurs il est un petit peu sur le recul. Il donne tout de suite à Thomas Ramos qui en position de 10 va tout de suite renverser la pression avec un long coup de pied. Allez, on tente de relancer, mais finalement Joris Segond qui lui aussi va taper fort et loin. Il va trouver la touche, mais non, Juan Cruz Maglia très acrobatiquement sauve la touche en rentrant dans le terrain. Et à peine chandelle, personne ne va être sous le coup de pied si ce n'est Marchant pour les Parisiens. Allez, les Franciliens qui sont en train de se réorganiser, ils sont devant leurs 22 mètres, ils vont attaquer avec le paquet sur la gauche avec notamment Lucas Pérez Blanc, l'ancien Biarro. Il y a un contest, il y a un contre-rock. Non, le ballon n'est pas récupéré, mais c'est vrai que comme on a vu les Toulousains très actifs sur le jeu au sol la semaine dernière, et bien là ils sont en train de pourrir la sortie de balle. Et il récupère déjà une première pénalité, mon cher FC.
Ouais, je crois que c'est Alexandre Roumat là qui prend bien l'espace. Il a vu que le joueur parisien s'était décalé, il n'y avait personne au soutien. Il prend l'espace et puis voilà, il y a une petite un petit cafouillage au sol des Parisiens et ça a profité aux Toulousains. Les Parisiens qui ont voulu récupérer ce ballon illégalement dans le ruck. Et voilà, pénalité, première tentative pour Thomas Ramos. bon, qui devrait la réussir. Là, on se situe au niveau des 15 mètres, enfin à 15 mètres de la ligne de touche. Allez, à 26 mètres des poteaux.
Allez, on a vu Pesanti chauffer un petit peu Paul Graou, qui s'est pas du tout laissé faire malgré la différence de gabarit. On a vu Thomas Ramos qui est venu mais calmer un petit peu les deux. On a peut-être lu dans la semaine les propos du joueur des Harlequins, Sterwizen, qui disait que c'était un des joueurs les plus désagréables du panel du quota européen à croiser. Ben, c'est vrai qu'il a son caractère et il n'a pas la langue dans sa poche, Thomas Ramos en tout cas. Il va tenter la première tentative de but de la soirée. 24 mètres droite, mais un petit peu plus avec évidemment les 15 mètres du bord de touche. Incroyable, ça part sur la gauche. Premier échec de Thomas Ramos, donc toujours 0-0 ici en bord de Garonne, alors que l'on joue depuis 3 minutes. Pas grave, on va s'installer, non pas dans le dos, mais dans le camp parisien, c'est déjà ça. Il va falloir que Joris Segond, avec ce renvoi, tape fort et loin, on sait qu'il a un coup de pied.
Très très loin. Il fait 22-22 en drop, c'est pas commun.
Ouais, c'est pas commun. Avec Barra, sinon c'est Ron Crosmania qui tape haut et fort en chandelle pour aller tester Belkufner, hein, qui me semble était dans le troisième rideau. Allez, on est un petit peu sur de l'affrontement. Là, on va tester les gros, notamment Castets qui va donner à son coéquipier Hugo Ndiaye. On est juste à la lisière des 40 mètres des Franciliens, le fameux Caterpillar. C'est vrai que World Rugby appelle ces petits trains Caterpillar. Alors bon, c'est hyper hyper fréquent. Ballon tapé par-dessus, derrière, gros tampon sur Ron Crosmania. C'était limite.
Je suis pas sûr qu'il avait les pieds qui touchaient le sol encore.
Est-ce qu'on n'a pas touché l'international argentin dans les airs, en tout cas? Monsieur Ramos ne le signifie pas.
Il se relève en tout cas.
Il y a un relais de Flamand, rien de grave pour le Pumas. Et là, de nouveau, on est en train de solliciter les gros pour que le coup de pied de Grau par-dessus le ruck soit le plus propre possible.
Et le bel encore dessous.
Encore une fois, pour l'ailier Mathis Nobel qui est allé récupérer dans le couloir des 5 mètres. Allez, le jeu qui peut s'emballer enfin avec Ramos qui fait office numéro 10, qui va donner un en poste de premier centre.
Oui,
il y a un plaquage très limite, hein, où on a pris au niveau des chevilles. La passe aussi, elle n'est pas terrible, mais finalement, avec rebond, Capozzo pouvait récupérer, mais il y a un enjeu bien vu par Alexis Palisson. La défense des joueurs du président Hans Peter, du propriétaire Hans Peter Wild, qui est tout simplement hors jeu. Et nouvelle pénalité, deuxième faute déjà en 4 minutes. Et le capitaine Marchand qui va discuter avec Thomas Ramos. Malgré l'échec préalable, on va de suite essayer de se remettre en confiance en tentant la pénalité. C'est logique.
Bah, c'est logique. Là, on est vraiment quasiment au milieu du terrain, vraiment à 1 ou 2 mètres décalés sur notre droite, enfin en plus vers nous. Et on se situe à 35 mètres des poteaux. Donc, on espère que Thomas va se rassurer en réussissant cette pénalité.
C'est un garçon qui a en général un gros mental, donc c'est vrai qu'il ne va pas être du style à se cacher. Et bon, voilà, normalement, c'est vrai que ça ne lui fait pas peur, les défis après un échec, d'essayer de recommencer. Allez, 35 mètres quasiment face, conditions de temps quasi parfaites. On est sur du 20-22 degrés, léger vent, mais vraiment très très léger. Temps un peu gris, mais finalement parfait pour des conditions de but et de jeu avec Thomas Ramos qui donc réussi son premier coup de pied sur les deux tentatives et cette pénalité, et qui voit donc le Stade Toulousain finalement mener sans avoir fait grand chose sur ce début de match. 6ème minute de jeu ici, 3-0 pour les stadistes de Toulouse face aux stadistes de Paris. On a quand même vu de super coups de pied récupérés par Lebel, hein, sur
mais
ce
ouais match. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait grand chose, mais sur le jeu au pied pour l'instant, Lebel voilà, fait passer les Toulousains devant, donc voilà, c'est vraiment grâce à ces deux actions que les Toulousains marquent. Et là, Joris Segond vient de taper directement en touche, se renvoie, donc il y aura une mêlée toulousaine sur les 50.
Ouais, c'est assez surprenant, ouais, de voir cet échec, et en tout cas ça va être aussi très intéressant de surveiller ce contest. Est-ce qu'on a une touche? Non, on n'a pas une touche encore.
Pas une touche, on
pas de mêlée, donc ouais, évidemment assister à cela. Le jeu au sol a été très intéressant tout à l'heure, puisque justement les Toulousains sont allés glaner l'une des deux pénalités que les Parisiens leur ont offert pour l'instant. Ce rugby, voilà, multidimensionnel, aérien, au sol, conquête, défense. On va rien vous apprendre, mais on va surveiller l'introduction de Paul Graou. Que nous disent les premières lignes? Qu'il faut passer par le sol. Troisième pénalité déjà. signalé par-dessus Ramos, mon cher Alexis.
Oui, et puis on a pu voir que malgré ce hors-jeu tout à l'heure des Parisiens, et les Parisiens montent très 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 fort en défense, quitte à être hors-jeu d'ailleurs, mais on a l'impression qu'ils ont envie d'étouffer très vite cette attaque et les velléités toulousaines.
Alors 50 mètres tout pile, et Juan Cruz Malia qui va demander à Ramos l'opportunité d'aller taper en touche. C'est ce qu'il va faire avec un coup de pied tapé un petit peu intérieur. Ouais, magnifique. Oh, superbe. Ça a quasiment rasé le poteau de coin.
Très gourmand Juan Cruz Malia.
Ah ben oui, mais il a bien essayé de la sauver, ouais. Mais avec moins de succès que Malia tout à l'heure. Et surtout, il a mis un pied en touche en retombant. Et,
alors pour nos auditeurs, Kylian Hamdaoui a sauté de l'extérieur du terrain vers l'intérieur, mais il est retombé le pied sur la ligne de touche. Donc une bonne touche là pour les Toulousains à 5 mètres de la ligne.
Allez, les avants qui sont au bouillon, au travail avec ce groupe pénétrant qui est en train de se dérouler. On voit Jack Willis, on voit Marchand qui récupère le ballon. C'est en train de se désagréger, ça passe par le sol.
Il y a un avantage côté Toulousain.
Obligé de jouer avec Pitaki.
Ah oui, ça va
jouer
dans le dos.
Qui donne à Malia qui va taper par-dessus en croisé pour le progrès de Toulouse. Signé l'un des hommes forts de ce début de match, Mathis Lebel, extraordinaire.
Ah, c'est mérité.
C'est mérité pour Mathis là.
Alors ouais, les Toulousains qui jouent bien le coup sur l'avantage, qui décident de passer par les trois quarts et Pétahaki, qui joue dans le dos du joueur qui arrive en coupe, je pense que c'est Pierre-Louis Barassi, pour Juan Cruz Malia, qui adresse une passe au pied magnifique pour Lebel, imparable, la première banderie Toulouse,
c'est magnifique évidemment pour Toulouse qui mène 8-3 avant transformation complètement en coin de Thomas Ramos en coin gauche, si vous voulez bien situer l'action. Thomas Ramos est en droitier, c'est un angle assez intéressant. Je suis assez surpris, c'est vrai, de la passivité parisienne. Le Mol n'a pas trop avancé, mais derrière, attaque d'école où finalement le premier centre va aller donner en l'heure au deuxième, qui donne à Ramos qui tape ce petit coup de pied par-dessus, à moins que ce soit Juan Cruz Malia. Mais finalement la défense parisienne qui est la meilleure d'élite, qui se fait complètement griller, et c'est vrai, Lebel qui est tout seul pour réceptionner ce ballon dans son couloir.
Quand on arrive près de la ligne comme ça, l'arrière a deux choix, soit il attend, soit on a une défense agressive comme le font les Parisiens, et je pense que ça a été travaillé côté Toulousain. Kylian Hamdaoui qui ferme très très fort sur l'avant-dernier, et il n'y a plus qu'à jouer dans son dos au pied pour...
Donc c'est un match tactique là qui vient d'être remporté en fait. C'est-à-dire que les Parisiens avaient jugé qu'il fallait faire une défense vraiment très agressive, comme tu es en train de dire. Les Toulousains l'ont anticipé, ils se sont dit on va aller jouer un petit côté par-dessus pour
Je pense que ça a été vu comme ça, après je peux me tromper. Mais bon, pour l'instant les Toulousains n'ont pas fait non plus de relance à la main de leur camp.
L'analyse d'Alexis Palisson, évidemment notre correspondant sur 100%. Vous avez entendu la foule ovationner Thomas Ramos. Vous avez donc compris qu'il y a eu une transformation qui est passée. Joris Segond, il prend tout son temps pour taper le renvoi. Il nous fait un renvoi en drop, c'est magnifique. Il a des coups de pied, mais magnifique. C'est vraiment très très beau à voir. Ce n'est que d'un drop, mais c'est super beau. Une trajectoire belle, puissante, forte et précise.
Et Segond qui a choisi d'alterner et taper un renvoi long, je pense pour se prévaloir des renvois de Graou sous pression.
On a essayé de relancer un petit peu sous les poteaux, et finalement sous la pression, mais évidemment Juan Cruz Malia a dégagé, trouvé une touche au niveau des 40 mètres. Mais voilà, on va être servi. On a eu du jeu au sol, on a eu de la mêlée, on a eu une touche, la première. Elle arrive là sur ses 40 mètres, et c'est le lancer pour Lucas Pérez Blanc, l'ancien Biarro.
Et la première attaque placée des Parisiens.
Exact, avec le ballon sur les 50 secondes pour la charge au niveau du centre avec Joe Marchant. On en rappelle qu'il est sur ses côtés, à ses côtés il a Pierre Boudon. Allez, on franchit au niveau des 40, on est en train de passer par le sol avec la charge de Pesanti, la deuxième ligne composée avec Paul Gabriel, bras tendu de monsieur Ramos, signifiant un avantage. On reste sur du petit côté avec Lester Etienne qui va taper fort et rasant le ballon de l'Obra Patom à Ramos, qui va donc permettre à monsieur Ramos de revenir à cette faute, la première pénalité toulousaine sur cette première possession finalement des Parisiens au bout de 12 minutes de jeu.
Ouais, les Parisiens très efficaces sur leurs premières attaques, pas transcendants, ils n'ont pas briqué, mais ils avançaient sur chaque point d'impact et ils ont réussi à coincer le plaqueur toulousain qui a empêché la libération du ballon. J'ai pas vu exactement qui c'était, mais on dirait que c'est Willis ou c'est Flamand, je pense. Et du coup, ben, avantage qui n'a pas profité avec ce coup de pied à suivre des tiens. Et je crois que c'est qui se présente pour taper. C'est Joris Sauron. Bon, ouais, il a largement hein, ouais. 42 mètres face au poteau. Ça va être une formalité au niveau puissance.
Presque aussi puissant que toi à l'époque.
Oh non.
Je t'ai vu taper le CABCL, c'est ça, ouais, c'est ça. Des 50 mètres à une époque, c'était pas mal.
Ouais,
bon. Quand t'avais positionné en 10.
Ouais, ouais, mais moi je mettais tout quoi.
Ouais, c'est ça.
Lui, on a l'impression qu'il retient.
Allez là, gestuelle bien significative de Joris Sauron, 42 mètres face, le silence qui s'installe, et ça c'est appréciable et c'est agréable. Le fort coup de pied, il y aura la puissance, ça va passer entre les poteaux. Allez, succès. Ouais.
Trois pas d'élan
à peine, évidemment.
Et ça passe bien haut.
Ouais, ouais. Ça, oui, oui, ça, et quand on connaît la hauteur des poteaux d'Ernest Vallon, je peux vous dire qu'il ne faudra pas faire de faute décisive voilà, à 50 mètres même et plus sur un match serré en fin de rencontre. Parce que Joris Sauron aussi, il est toujours là, il pourrait vous crucifier. Allez, le renvoi de Juan Cruz Malia, alors que l'on joue la 13e et que le score n'est plus que de 10 à 3 en faveur des champions de France en titre, 5 fois champion d'Europe aussi, on rappelle quand même le pédigré, et le lancer à venir de Julien Marchand qui se dépêche avec cette touche.
Oui, même l'arbitre s'est retrouvé dans le couloir et il a eu un peu peur, je crois.
C'est intéressant ça quand même. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on a peur peut-être du contre parisien.
Je pense qu'on veut, oui, on veut mettre du rythme pour éviter ce contre qui est super efficient. Hein. Je pense que c'est la patte de l'entraîneur Karim Ghezal là que j'ai pu côtoyer à Lyon. Et c'est vrai qu'on était très performants sur la touche. On voit les Toulousains qui se précipitent en touche pour lancer au plus vite.
Et on n'a pas contesté hein, sur l'alignement où Rich Arnold a pu capter la balle. Il y en a un avant là, vers Willis, ce qui fait qu'on repartira sur un temps faible. Et une mêlée au niveau des 50 mètres. Ouais, on a décidé de pas aller contrer pour se concentrer peut-être sur le groupe pénétrant qui n'a pas eu lieu puisque finalement Arnold a volé.
Ouais.
Hein.
Ouais, puis on a pu voir aussi la défense quand même derrière cette touche qui est montée très très vite et qui a mis à mal l'attaque toulousaine puisque Willis a fait un en avant. On peut voir que voilà, on voit sur le ralenti les Parisiens gagnent la ligne d'avantage sur la défense.
Ouais, on va surveiller évidemment l'attaque stadiste réputée première en termes de d'essais marqués, de nombre de points, mais on va aussi surveiller cette défense parisienne, la meilleure d'élite. On va surveiller si elle est si forte que ça. Pour l'instant, elle a donné quelques signes de faiblesse. Allez, on part sur du petit côté vers la gauche avec la 80, presque 9, où Abel Guffner a finalement servi son numéro 10, Joris Sauron. On est parti avec le demi de mêlée Bad Weber pour relayer un temps rapide. Troisième temps de jeu avec le talonneur Perez Blanc, tout en tenue sans dynamisme, comme il l'était du côté de la côte basque. L'intervention du frère Boudehan, Pierre. Les rucks qui sont encore assez rapides du côté parisien, on essaie évidemment de ralentir cette marée rose avec déjà le quatrième temps fort, temps de jeu avec Ryan Chapuis qui avance, on est entre 40 et 22 mètres. Bleber qui tente d'aller tout seul mais qui est bien pris par son vis-à-vis qui non seulement le plaque mais derrière tente aussi de gratter. Là, la charge de Paul Gabriel avec son casque, on est au 35 mètres, on est dans l'axe. Rafi d'une main pour Lucas Perez Blanc, ballon sous l'autre et pas de solution, et du coup coup de pied en diagonale façon trésiste de Joris Sauron, ballon très bien récupéré par Ramos qui évite un plaquage et qui donne à Mathis Temel qui relance, mais ça va sortir en touche. Quelle gestuelle hein, Thomas Ramos.
Ouais, attention quand même parce qu'il était bien chassé. Et ça a pas mis en difficulté Mathis Lebel qui a atterri en touche et qui a bien été défendu par les Parisiens. Les Parisiens qui restent quand même assez stériles sur leur attaque mais qui conservent le ballon et qui mettent en difficulté un petit peu Thomas Ramos sur ce jeu au pied.
Allez, d'un côté les Toulousains sont en train de partir à l'échauffement. Je veux parler évidemment des remplaçants. Les remplaçants parisiens qui en font de même. Et surtout il y a un fond d'alignement choisi par le talonneur Lucas Perez Blanc. C'est au niveau des 22 mètres. Attention, premier temps faible, vraiment stadiste, où il faut défendre sur ce groupe pénétrant. Et Dieu sait qu'il est en train de bien avancer avec Perez Blanc qui a récupéré la balle, qui passe par le sol. Pas de bras tendus de Monsieur Ramos. On va pouvoir lancer le jeu avec Weber. Est-ce qu'on partirait pas avec les gros? Oui. Avec Pesanti qui est bien aidé aussi par Hugo Ndiaye. On reste dans l'axe avec Briat qui vient au soutien aussi. Même sens vers la gauche encore. On tente d'y aller en force. Hein. C'est pas hyper original, mais c'est très structuré.
Ça joue au casse-brique là pour l'instant. Côté parisien, c'est du jeu à quasiment qu'une passe pour l'avant. Et je crois qu'on a eu un grattage de Willis qui a pas été récompensé.
Ouais.
Mais là, un plaquage haut de Ramos, attention quand même.
Pas signalé non plus. Non. Et Lester Etienne qui vient quitter son aile pour apporter un petit peu de vitesse et d'originalité. La deuxième ligne là aussi à la charge, mais attention à ne pas sortir du soutien. Gabriel qui peut heureusement donner la balle à Weber qui ne trouve pas de solution sur son côté gauche, donc il va revenir dans l'axe. On est au 18 mètres. Toulouse qui en ce quart d'heure de jeu passé de 1 minute mène 10 à 3, on vous le rappelle. On est bien sur 100% et on continue avec cette attaque parisienne la plus significative de ce début de match. Toujours Nestor Etienne dans le couloir des 15 mètres là-bas, côté opposé. Weber qui va revenir avec les gros et avec les hommes, et notamment Hugo Ndiaye.
Belle défense
de la part des Stadis qui vraiment mettent sur le reculoir et veulent marquer au fer rouge cette fameuse défense parisienne. Montrer qu'à Toulouse, oui, on sait attaquer, mais on sait aussi refouler. Le petit coup de pied par-dessus de Weber, travaillé, qui va aller dans l'embut, qui va être sauvé par 3 Toulousains. Mathis Lebel, il n'aplatit pas, il relance, il va mettre de la folie, il va éviter le renvoi. Le coup de pied de renvoi de l'embut, il va retrouver ses groupes, il a glissé.
Ah, il est en forme, hein, Mathis Lebel, là. Il fait un début de match, là, il tient la baraque toulousaine.
Et c'est vrai que là, on voit vraiment la règle, enfin, l'ancienne nouvelle règle World Rugby qui motive finalement les attaquants à relancer.
À sortir de cet embut, ouais, parce qu'on
surtout avec un Joris Second derrière, parce que
exactement,
là, on renvoie dans l'embut.
Un tireur comme Joris Second, il peut tenter un drop de n'importe où.
Et n'importe quand. Allez, on est quasiment dans les 5 mètres toulousains, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est Paul Graou qui a la main sur la balle. Et il peut taper loin, haut et fort, quasiment dans les tribunes. Joris Second ne pourra pas récupérer la balle. Ça, c'est un moment important. Toulouse a été dominé, Paris a eu la balle, mais les Parisiens repartent du camp des hommes du capitaine Bredouille. Il n'y a pas eu de point marqué.
Non, puis à part sur le ballon porté le ballon porté des Parisiens, il n'y a pas eu d'avancée côté parisien. Donc ils se sont séparés deux fois du ballon dans le camp toulousain. Et les deux fois, les Toulousains s'en sortent plutôt bien.
Allez, lancer de Lucas Pérez Blanc au niveau des 40 mètres. Alignement complet, messieurs, dames. Le fond d'alignement, ouais, Flamand, il a bien failli toucher le ballon. Mais c'est Romain Briatte qui a récupéré. Attention, parce que Weber, il est en train de se faire la main. Il y a eu un plaquage il a été rattrapé par le bout du callback. Il y a un avantage en cours d'ailleurs, signalé par monsieur Ramos. Mais il a bien fallu 3 Toulousains pour les récupérer. Il a vraiment des cannes. Du coup, Jean-Louis Segond qui retape complètement en bout d'aile là-bas, façon Camille Lopez, pour son ailier. Ça va sortir en touche. Et surprenant, monsieur Ramos qui se rapproche justement de ce coup de pied.
Ah oui, oui. Il revient pas à l'avantage.
Voir son assesseur, est-ce que c'est monsieur Bredouille, comme si l'avantage avait été joué.
Ouais, c'est étonnant parce que l'avantage se situe au niveau des 22 mètres côté gauche parisien. Et là, la touche est à 10 mètres de la ligne toulousaine. Donc, étonnant comme choix.
Après, il considère a priori qu'en ayant opté pour ce jeu au pied, les Parisiens ont joué cet avantage. C'est dur si c'est bien le cas. Et Alexandre Matt peut capter ce ballon pour l'instant, 100% de ballon en touche pour les deux équipes. Et attention, tout de suite, dès la première charge, faute au sol signifiée par le référé de bleu et noir vêtu à l'encontre.
On s'est joué vite côté parisien et. Oh.
Est-ce que ça serait pas l'essai? L'essai de la part des Stadistes.
C'est
avec
Pérez
Blanc, que t'as l'honneur, qui a joué à la main rapidement cette
pénalité. Il a surpris tout le monde, même ses partenaires.
Et même moi, je vais vous le dire, sauf Alexis Palisson, qui en effet suivait bien le coup.
Il est allé tout droit, il a même sauté par-dessus le dernier défenseur, j'ai l'impression.
Ouais, pénalité rapidement jouée aux 6 mètres par l'ancien talon du Pays Basque. Mais les Toulousains n'étaient pas repositionnés, il a carrément sauté par-dessus le dernier défenseur, Cyril Boy peut-être, en tout cas. Eh bien, les Parisiens, cette fois-ci, ils se payent avec ce premier essai les concernant. Premier essai tout à l'heure, signé Mathis Lebel, si vous nous rejoignez à peine sur 100%. Cette fois-ci, c'est Lucas Pérez-Blanc qui vient marquer cet essai et qui nous propose, en cette 21e minute, finalement, un match serré, 10 à 8 avant transformation de Joris Second.
Ouais, dommage côté toulousain parce que malgré cette fin d'avantage, ils pouvaient se sortir de leur camp et sur le premier rock, ils se mettent à la faute.
On s'est félicité un petit peu trop vite finalement du fait que les Toulousains étaient ressortis de leur camp sans prendre de points. Et là, on voit encore cette équipe Caméléon Stade Français qui est aussi ultra réaliste, ultra efficace.
Exactement.
Hein, pas beaucoup d'occasions pour marquer.
On a affaire à deux équipes de très haut niveau. Hein, dès qu'ils ont une occasion de marquer, ça va derrière la ligne.
Allez, la tentative de Joris Segond, on est à 2 sur 2 pour l'instant pour le buteur patenté des ex-Bleu Marine et Rouge devenus Soldats Roses. Et ben, on appelle de tous ses voeux à l'atmosphère XXL du côté d'Ernest Vallon, le speaker qui s'en donne un cœur joie. Ouais, on voit des stats de possession. 48%.
Vous n'avez pas vu là.
42% pardon, en faveur des stats de Toulousain. Laurent voit.
Allez, on a assisté à un truc un peu rigolo là.
Alexis.
Ouais, ouais, c'est. On a assisté une croisée avant coup d'envoi entre. Entre Ramos et
Emalia.
Emalia, et ça a tapé à l'opposé, bon, sans trop de réussite parce que le renvoi n'a pas fait 10 mètres et je crois qu'on va avoir droit à une mêlée parisienne au centre du terrain. Mais c'était étonnant comme.
Oui, en fait.
On a voulu jouer le pied droit de Ramos côté gauche.
Alors que Malia s'apprêtait à jouer de l'autre côté.
Ouais.
On essaie de surprendre.
Mais on n'a plus de ballon. Ouais. L'arbitre appelle le ballon du coup. Ça a surpris tout le monde cette action.
Ouais, c'est parti directement en touche, ça n'a pas fait les 10 mètres, mais on essaie de se creuser les méninges pour essayer de surprendre les défenses et les acteurs adverses. Il y a tellement de vidéos, tellement d'analyses, de stats, de data qui tournent de part et d'autre qu'il faut essayer d'être un petit peu plus original que votre adversaire. En tout cas, pour l'instant, on a un vrai choc des deux stades, le vrai classique ou classico. 10 partout, c'est serré, deux essais, 23e minute de jeu, mêlée à venir, des gros, des chocs et une conquête aussi omniprésente, alors que les remplaçants toulousains ont terminé de leur mini-échauffement de milieu de mi-temps. Introduction à venir de Brad Weber qui a fait parler des cadres tout à l'heure. Impressionnant ce démarrage. Tout
ah, il va très très vite, hein, j'ai l'impression.
Allez, la sortie, la feinte, Weber vers la droite alors qu'Abel Kufner lance le jeu vers la gauche avec Joe Marchant qui ne sert pas à Lester Etienne parce qu'il y avait une anticipation au niveau de la défense d'Ange Capozzo qui avait bien coupé la trajectoire de passe possible. Boudon est venu aider, on est au niveau des 40 mètres, on prend un petit peu plus de profondeur. Hamdaoui fait office de numéro 10, Brad Weber récupère le ballon mais il n'est pas terrible, du coup il est en train de ramper un petit peu. Au moment où il est plaqué, ça passe.
Je pense
par
que le
sol.
Ballon est récupéré par les Toulousains.
Et oui, avec le coup de pied tout de suite de Paul Grau pour renverser la pression.
Oh.
Superbe coup de pied avec un rebond juste devant la ligne.
Et un poil de réussite hein, pour Grau parce que le ballon tombe vraiment devant la ligne.
Ouais, là, superbe travail au sol avec ben, justement ce ballon gratté. Derrière la très belle intelligence situationnelle de Paul Grau qui va évidemment taper par-dessus son rock. En décroisé pour aller trouver cette touche au niveau des 35 mètres, retrouver un petit peu le camp parisien parce que c'est vrai que ben, depuis le premier essai de Lebel, Paris est un petit peu à sa
mère. Paris en difficulté
et
sur sa touche.
Parce que Briat avait volé la balle, mais très difficilement, mais derrière, ballon récupéré
par l'infatigable Willis. Hein, Willis.
Et Willis est derrière, malheureusement, encore un an avant. Il y a quelques maladresses surprenantes, je trouve, par rapport au week-end précédent, au pluriel.
Oui, oui, et puis on voit les Parisiens qui remontent très, très fort, hein, qui sont capables de passer d'attaquant à défenseur très, très vite et avec beaucoup d'efficacité. Ça fait deux fois que Willis ouais, échappe le ballon. On ne peut pas trop lui en vouloir, hein, vu le travail qu'il a bas.
Ouais. Il y avait eu cette touche donc volée dans un deuxième temps par Marchand derrière Willis.
C'est pas Willis, non, c'est
derrière Willis.
C'est Alexandre Roumat qui
récupère
la balle.
Et Roumat qui en effet au contact va dégueuler la balle comme on le dit grossièrement. Et d'où cette mêlée aux 22 mètres stadistes de la capitale, quasiment dans l'axe, légèrement sur leur gauche, si vous étiez dans les pas de leur attaque. 10 partout, équilibre parfait, bras cassé, signifié par Monsieur Ramos. On va surveiller quel va être le choix.
Une entrée anticipée des Toulousains peut-être.
Ouais. Quel va être le choix des Parisiens et des Second, il tape fort et loin dans le camp adverse avec Ramos qui va récupérer la balle et qui appelle la chandelle avec Ange Capozzo qui va être la voltigeur qui va essayer d'aller récupérer la balle mais elle est trop forte, elle est trop longue et derrière il prend le bus à Abel Kufner qui propose ensuite un 360 pour justement éviter la défense des stadistes. Allez, on est parti sur du jeu d'impact, sur du gain de terrain. Il faut aussi en passer par cela avant d'aller trouver les espaces.
Le fameux petit train.
Ouais. Le wagonnet qui s'installe avec Abel Kufner en son cul et Brad Weber qui peut aller taper loin, haut et fort. Il va y avoir un contest dont Lester Etienne, pardon, va sortir le grand vainqueur sur son aile face à Capozzo. Second au niveau de 50 mètres avec Pierre Boudon, un superbe joueur qui nécessite un double plaquage entre Matrice Castro Ferreira et Alexandre Roumat. Le jeu au niveau des 5, des 40, pardon, toulousains, on était serré en faveur des Parisiens au niveau de la possession de balle, ça se confirme. Paris aime garder les munitions.
Oh là, Willis Kerman là-bas.
Et là, super plaquage au niveau des chevilles à l'ancienne. On va revenir à une maladresse. Pas mal de mêlées, pas mal de maladresse.
Et hein. Deux défenses qui s'annulent. Hein. Pour l'instant, on a la chance de voir, d'avoir un essai de part et d'autre parce que pour l'instant, les deux équipes s'annulent en défense.
Ah, on est sur un vrai match de. Je vais pas en dire de phase finale, mais un vrai choc de haut tableau où les deux équipes s'observent ou insistent vraiment sur les fondamentaux et sur la défense avant de penser à faire n'importe quoi et à jouer. C'est vraiment deux cartes postales complètement différentes par rapport au week-end dernier, par exemple. C'est Harlequins où il y a eu un match en première mi-temps complètement débridé.
Un festival d'essai, et là c'est un peu l'inverse. On compte beaucoup sur le jeu au pied de pression et ça, ben là, ça a réussi à Étienne et les deux fois d'avant. Ah, Mathis Lebel, donc voilà, on n'a pas beaucoup de break sur attaque placée, on n'a pas l'impression que les deux attaques veulent prendre des risques.
C'est la signature top 14 ça aussi un peu Alexis, ou c'est la signature de
la signature
stade français
du match, je pense, c'est du stade match, français, ouais. Et je pense que voilà, Toulouse a envie de bien défendre parce qu'ils savent que derrière ça va être compliqué de marquer des essais.
La vraie 89 avec Brad Weber qui va taper, bras cassé, enfin le marque de Thomas Ramos qui derrière va vite dégager et va provoquer certainement du ping-pong rugby avec Joris Segond qui lui va trouver la touche. C'est pas son meilleur dégagement, il y avait la puissance, il trouve le toit, mais il trouve pas la meilleure touche au niveau des 48 mètres parisiens là-bas.
C'est étonnant de se séparer du ballon de la part des parisiens, ils avaient une bonne mêlée dans le camp toulousain. Il tape directement sur Ramos qui joue le marque et qui joue le bras cassé rapidement. Trouve Second dans ses 22 qui décide de dégager. Ça fait une touche complètement à l'opposé du coup pour les dans le camp parisien pour les Toulousains. Donc c'est, on peut dire que le bras de fer est perdu.
Allez, la touche gagnée par Alexandre Roumat au milieu d'alignement. On va lancer le buffle Pita Aki dans l'axe du terrain. Ça fait beaucoup de bien Alexandre Roumat au transfert de balle. Le centre Pierre-Louis Barassi qui a bien failli passer. On est entre les 40 et les 50 de Paris avec Ange Capozzo qui fait jouer son fameux tchic-tchac. Il donne la balle avant de sortir en touche. C'est très bien ce que fait les liés avec la superbe intervention de Max Castro Ferreira qui est vraiment excellent. Hein, vraiment un superbe joueur prometteur avec Jacques qui est entre Marchand et Marchant, c'est bien ça, hein, en train de changer une lettre et quelques amabilités certainement en français et en anglais, mais le jeu continue, on est sous les poteaux, on est au niveau de 22 mètres. Cyril Baye fait office de numéro 10, l'intervention de Capozzo qui
dit 1 oh oui,
et 2 et 3 défenseurs pour servir Paul Kraou et cet essai extraordinaire sous les poteaux. Il y avait un espace supplémentaire avec les deux joueurs qui étaient en train de s'accrocher, mais les Toulousains ils ont su en profiter.
Un magnifique Capozzo, hein, il a du feu dans les jambes. Il sert magnifiquement Graou intérieur d'un bras. Très belle action des Toulousains qui ont pris beaucoup de risques à eux, contrairement aux Parisiens, avec des attaques placées, des attaques du jeu dans le dos. Et là, ça paye.
Déjà deux essais à un, messieurs, dames. Nous jouons la demi-heure de jeu. Tout pile ici, Ernest Vallon, avant la transformation de Thomas Ramos. Il va évidemment prendre tout son temps. Il lui reste une minute pour transformer. Et il y a eu quand même une sacrée action de la part des Haut-Garonnais, les joueurs du 31 qui se récompensent une deuxième fois en venant dans le camp adverse, dans les 22 mètres adverses, et avec encore un essai. Décidément, les ailiers ont des feux dans les pattes. On a vu là une superbe intervention de Capozzo qui a quitté son aile droite pour venir faire le surnom à gauche. Il a grillé deux ou trois défenseurs. Derrière, il sert en Chistera Graou.
Ouais, puis surtout, il est au début de l'action où il sauve le ballon parce que il fait un tic-tac côté droit toulousain et il est à deux doigts d'être poussé en touche. Il arrive à libérer les bras au dernier moment. Il dézone ensuite deux temps de jeu après pour faire la différence et permettre à Graou de marquer. Donc il a vraiment du feu dans les jambes.
Et Thomas Ramos qui nous transforme tout ça pour du coup 17 à 10 alors que Beklo et Oli sont en train par la sono de ampiancer évidemment le stade des Occitans alors que Joris Segond va être appelé sur les 50 mètres pour taper le renvoi. Voilà qui donne un petit peu plus d'air au niveau du score avec ce 17 à 10. Mais il va falloir y être hyper méfiant évidemment alors que Roumat capte magnifiquement
très
le
propre,
renvoi.
Très propre parce qu'il est encore monté très très haut ce ballon.
incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est des drops chandelles assez impressionnants qui du coup mettent la pression sur le réceptionneur et laissent tout le temps à votre équipe de venir aller au contest. En tout cas, là, il y a un contest assez facile pour Kylian Hamdaoui puisqu'on avait dégagé fort aussi du côté de Toulouse. Oh. Il y a quelques caramels, Alexis.
C'est encore Willis qui a distribué un caramel.
On est bien là, ici, ouais. On est pas mal.
Ah, il en a bas du boulot, Willis. Il fait du bien, cette équipe toulousaine.
Allez, au niveau des 50 mètres, Weber sous la pression. Il y a un match en match aussi, Graou, Weber, assez intéressant. Que ce soit sur la prise d'initiative, les petits espaces à prendre ou les défenses à toi, à moi, c'est assez intéressant. Là, il n'y a pas de solution pour les Parisiens. Du coup, on va taper. Mais Joris Segond, il a été distrait, surpris que.
Il était en train de donner des consignes, j'ai l'impression.
Ben ouais, incroyable. Là, on ne s'est pas compris, ça va vraiment pas plaire au coach. Du coup, le ballon, il a rebondi dessus en avant majuscule, j'ai envie de dire. Et ça, c'est intéressant parce que ça hache un peu le jeu et ça favorise plutôt finalement le tempo.
On sent les Parisiens bousculés quand même par la défense toulousaine là, qui monte, qui est agressive, qui pose des problèmes dans tous les rucks. Et là, Weber.
Ah non, c'est Weber.
Ouais,
c'est
Weber qui sort le ballon.
Qui a extrait le ballon.
Ouais. Qui sort le ballon alors que Joris Segond ne regardait pas du tout le ruck, était en train de donner des consignes sur ce qu'il allait faire après. Mais c'est dû à cette défense et cette pression toulousaine là depuis. Depuis le début du match, il leur pose des problèmes sur l'attaque placée. Et je pense que Joris Segond s'apprêtait à donner un grand coup de pompe, comme on dit, et à préparer ses coéquipiers à monter.
On est en train de soigner le bras ou le poignet de Thibaut Flamand, international s'il en est, au poste de deuxième ligne. On verra si c'est grave ou pas. En tout cas, ça prend un petit peu de temps pour officier cette mêlée. Ouais, c'est le doigt, a priori, rien de très très grave. Alors qu'on voit quelques-uns des remplaçants ou des hors-groupe du côté toulousain et Blair Kinghorn qui n'a jamais aussi bien porté son prénom. Puisque tu as dû voir les images avec son nez complètement cassé lors de la dernière action face à Harlequins. Il avait le nez complètement en travers. Le Blair, et il est présent en tribune, mais il va être absent malheureusement, c'est vrai, plusieurs semaines. Et c'est vrai que vu le niveau de forme dans lequel il se trouvait, c'est une absence de poids quand même.
C'est une absence de poids, bien sûr, mais bon, on peut compter sur l'effectif toulousain avec voilà, Thomas Ramos. Je pense que ça va lui faire du bien aussi de retrouver un peu de temps de jeu parce qu'il a été un peu pas écarté, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de concurrence à son poste. Et pour la confiance, ça peut lui faire du bien de retrouver.
Ah, cette mêlée, elle est complètement désaxée. Que va signifier Monsieur Ramos? Pénalité à l'encontre des Toulousains. 4 pénalités contre Toulouse, 3 contre les joueurs de Laurent Labitte, Karim Ghezal. Et du coup, dans leur camp, au niveau des 35, 36, 37 mètres. Allez, TTC, on va pouvoir se dégager avec Joris Segond qui se doit une revanche. Qui va taper haut et fort, qui va quand même assurer son coup de pied pour avoir lancé.
Il perd tous les ballons, Joris Segond.
Ouais.
C'est le deuxième qu'il envoie derrière.
J'espère qu'il a des copains derrière la tribune.
Il peut remercier son paquet d'avant, hein, qui lui a sauvé un peu la mise.
Ouais, c'est vrai, avec cette mêlée suite à son étourderie tout à l'heure sur cet en avant. Allez, le lancer à suivre de Lucas Pérez. Bon, on va surveiller cette touche aussi parce que ça fait 2-3 fois quand même que les Toulousains sont assez. Sont pas loin de gratter le ballon dans les airs, mais là on conteste même pas. Paul Gabriel va pouvoir capter le ballon tranquillement. En revanche, il est bien touché. Et le groupe pénétrant, il se met en place que dans un deuxième temps. On est sur les 40 mètres stadistes, ballon pour les soldats roses. Et ça y est, Lucas heureusement peut être la poigne sur la gonfle. Mais ça passe par le sol et Weber va être demandé à l'éjection de cette balle. Et ça ne sortira pas. La cage à la chaise. Le fameux plaquage cher aux Irlandais où on pourrit la sortie de balle sur un ballon porté, sur un ballon debout et du coup rendu à l'adversaire par l'entremise d'une mêlée.
Je trouve ça un peu dommage cette règle, j'espère qu'on reviendra dessus. On considère que le joueur, s'il ne se délie pas et qu'il est dans son camp et dans la règle au début du mouvement et qu'il se retrouve dans le camp adverse sans être délié de tout le temps où il reste en contact. Il peut rester et freiner la progression du mol. Bon, je trouve que c'est un peu dommage pour le jeu, mais bon. Tant mieux pour les Toulousains là, qui vont récupérer un bon ballon d'attaque sur leurs 40 mètres au niveau à 15 mètres sur leur gauche.
Avec Paul Graou à l'introduction. D'ailleurs, oui, World Rugby annonce quelques tests ou quelques changements de règles. Il y a notamment demander une mêlée après un bras cassé. La mêlée d'ailleurs va être rejouée, hein. On est sur un temps arrêté. C'est plutôt bien pour le trois quarts que tu es ou que tu étais.
Pas pour le trois quarts, mais pour le jeu. Je pense qu'on a un jeu qui se dirige de plus en plus vers un spectacle et même tout ce qui est mis en place voilà, autour du jeu, je parle dans les tribunes, le spectacle, la musique, les sons et lumières, c'est super parce que on n'est plus dans ce rugby à l'ancienne
où on va de mêlée en mêlée.
Ouais, voilà, ouais. Donc pour moi, il faut qu'il y ait du spectacle, il faut qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait du rythme et il faut qu'on se différencie un peu de certains autres sports où nous, il nous faut du mouvement.
On ne manque pas de rythme dans ce choc des stades avec la sortie de Roumat. Alexandre, de son prénom, après cette belle mêlée, est-ce qu'on va taper à suivre?
Ah, il cherche 50-22.
Il cherche des touches.
Et bien joué
Juan Cruz Malia qui a brandi le point de la victoire.
Attention, parce qu'en choc de il a échassé le ballon.
Il a essayé de la jouer vite. Superbe, il était derrière ses 40 mètres. Coup de pied majuscule derrière les 22 mètres parisiens. La 50-22, elle est belle. On n'en avait pas eu encore lors des 35 premières minutes de ce match. Cette première mi-temps qui est passée d'entrée, 17 pour Toulouse, 10 pour Paris, on le rappelle, 2 essais à 1. C'est très agréable à voir. En même temps, c'est pas non plus un 40 ou un 50 points face à un adversaire complètement à la rue. On est sur un contest très intéressant de part et d'autre. Lancé à suivre de Julien Marchand qui n'entend pas les consignes. Il fait signe avec son oreille. Monsieur Ramos qui permet à Richie Arnold de capter ce ballon.
Ouais, et prise en premier sauteur. Pour Richie Arnold, pardon. On a le droit à grouper le premier Toulousain, je crois.
Allez, le Moll qui n'avance pas et du coup Grau qui va lancer, ouais, monter vraiment en pointe, Pitaki qui n'a pas un centimètre pour faire parler sa puissance. On continue le même sens, mais malheureusement pour lui, c'est Juan Cruz Malia. Il va commettre un en avant, un petit peu tout seul d'ailleurs. C'est dommage. Quelques petites maladresses sur ce début de match.
Ouais, c'est étonnant, même Aki a eu du mal à contrôler ce ballon, qui semblait. Bah, peut-être que le ballon est glissant avec la transpiration, peut-être la. Je sais pas s'il y a peut-être une rosée qui commence à tomber, mais ouais, deux erreurs quasiment d'affilée là, demain.
Ouais, alors que Juan Cruz Malia finalement avait renclenché un mouvement assez intéressant sur la gauche. On était au niveau des 35 mètres, ça ne donnera rien si ce n'est cette mêlée axiale avec l'introduction à venir de Brad Weber pour des Parisiens qui ne sont pas que les leaders du top 14, c'est aussi la deuxième équipe qui gratte le plus au sol avec 80 ballons grattés. Pour l'instant, on les a pas trop vus insister fortement dans ce secteur.
Non, puis on voit les Toulousains soigneux sur leur déblayage, donc il n'y a pas de raison de mettre un. Oula, qu'est-ce qui s'est passé?
Et pénalité contre Paris avec cette mêlée complètement relevée. C'est en train de se chauffer, de se chambrer.
Je crois que c'est Dorian Aldeguerri qui a soulevé son.
Ouais, alors c'est en train de s'empoigner.
Non, je crois que c'est Cyril Bay qui a soulevé carrément son.
Et alors, Dorian Aldeguerri, il s'est sorti de l'échauffouré, rien de bien grave. On va revoir l'action sur les écrans. C'est axial. Il n'y a a priori pas de conséquences ni d'appel à la vidéo. Monsieur Ramos. Oh, incroyable.
Ouais. Le ballon n'avait pas été introduit, donc c'est un peu étonnant.
Ouais, une partie de la première ligne parisienne, on aurait dit qu'elle était debout sur le dos des deuxièmes lignes. J'ai rarement vu. Un pilier ou une première ligne autant relevé comme ça sur l'impact.
Je pense que la première ligne toulousaine, pour un peu les connaître, ont été un peu vexés de la dernière mêlée. Hein.
Ouais, on voit Dorian Aldeguerri qui est en train de parler à son soigneur en lui demandant de l'eau, qui doit en effet ruminer la mêlée d'avant et qui doit être bien content de l'effort qui a permis d'obtenir cette pénalité. Elle est importante, hein, cette faute-là, juste avant la mi-temps. Dans deux minutes, ça sera la pause sur 100%. Thomas Ramos qui a l'occasion de taper ses quatrième coup de pied. Il en a réussi deux sur trois jusqu'à présent. Il ne faut pas qu'il fasse baisser son ratio. On rappelle qu'il est à 76,2% de réussite. Le meilleur buteur toulousain avec 86 points. Il en rajoute 3 de plus. Et voilà qui donne un petit peu d'air encore un peu plus aux hommes du président Lacroix qui mène 20-10. A priori, score dont on espère qu'il soit le même à la mi-temps. Mais il y a un dernier envoi de Joris Segond. Il va falloir être solide et sérieux jusqu'au bout parce qu'on voit, on sait que les Franciliens sont capables de marquer. Ouais, à chaque fois des renvois très longs.
Hein. Ouais, là aussi, il choisit un renvoi long, c'est étonnant.
Oui, derrière.
Oui, parce qu'à chaque fois, il récupère la possession derrière. Bon, oui, c'est un choix stratégique.
Ouais, parce que Toulouse a pas fait le choix de faire du ping-pong rugby, ni de relancer, ni d'aller chercher d'une chandelle quelques-uns de ses ailiers. On est clairement allé en touche.
Puis c'est vrai que Grau a mis un très bon jeu au pied de pression à chaque fois que les renvois étaient courts de secondes. Donc, ouais, il a fait un sur deux, j'ai l'impression. Un long, un court, un long, un court, un long.
Ouais, on essaie de surprendre. En tout cas, il y a un dernier lancé pour Lucas Pérez Blanc. Oui, encore une fois, ouais, perdu le lancé pas droit, mais on signale surtout qu'il y a un écran.
Non, je pense que les Toulousains n'ont pas respecté le couloir.
Et en effet, il y a un bras cassé. Bras cassé, que ça va jouer certainement à la main hein, pour Weber qui fait parler les gros, les puissants, les solides. Briat au cul de Gabriel. On se rapproche des 22 mètres, on se rapproche de l'axe du terrain. Le passe magnifique pour Abel Kufner. Elle est au cordeau cette passe. On continue vers la gauche avec Pierre Boudon qui est bien pris par deux défenseurs. La sirène qui retentit, vous l'entendez. Abel Kufner aussi peut ouais, charger. Bras tendu malheureusement et avantage en cours. Les Parisiens vont certainement tenter quelque chose d'un petit peu original pour venir marquer peut-être plus que 3 points. Petit coup de pied encore une fois de Joris Second et le rebond va ensuite aller en touche et éviter l'Esther Etienne. On reviendra à la pénalité et a priori on demande les 3 points du côté de Karim Ghezal.
Ouais, c'est un peu étonnant cette équipe parisienne qui ne tente pas beaucoup de choses et là on l'a vu faire un joli mouvement et presque casser la ligne de défense toulousaine et après ben, ils retombent dans leur travers à faire du jeu à une passe. Bon, ils ont un avantage mais ouais, c'est étonnant. Je les espérais un peu plus entreprenants sur cette première période. Ils ont été un peu timorés.
Allez, on va demander les poteaux, évidemment, pour Joris Second. On est la 40e passée de 50 secondes. Il lui reste 30 secondes au docteur. Est-ce coup de pied de la soirée pour les joueurs de la Tour Eiffel pour passer ce coup de pied? C'est pas le plus complexe qu'il ait eu, mais bon, voilà, il faut être solide et sérieux. Alors que nombre de supporters vont déjà à la tireuse à bière se déshydrater. Joris Second, il prend tout son temps pour essayer de passer ses points qui permettraient donc au score de n'être plus que de moins 7 en défaveur des soldats roses. Il prend tout son temps et le ballon qui va bien passer entre les poteaux. Voilà, le score est donc de 20 pour le Stade Toulousain, 13 pour Paris. Match plaisant, match agréable. On est carrément dans ce qu'on attendait des deux équipes. Ça veut dire quand même un peu plus de jeu, un peu plus de folie, un petit peu plus d'espace et d'intervalle du côté des Toulousains et des Parisiens hyper, hyper efficaces et qui essaient d'embêter les champions de France avec leur défense.
Ouais, c'est exactement ça. Après, on a vu l'équipe toulousaine voilà, beaucoup entreprendre et marquer sur le jeu qu'ils ont essayé de mettre en place. Deux défenses qui se sont un petit peu annulées en début de match malgré ces deux essais. Bon, l'essai parisien c'est une pénalité jouée rapidement. Maintenant, ouais, c'est vrai que les Parisiens sont un petit peu timides en défense alors qu'ils ont la possession dans le camp toulousain. Ils peuvent compter sur les fautes toulousaines pour tenir un petit peu le score, mais on a pu voir une équipe toulousaine vraiment, vraiment entreprendre et se sentir à l'aise dans son attaque, donc c'est de bonne augure pour la deuxième mi-temps.
Trois essais, mon cher Alexis Palisson. Les deux Toulousains ont été signés Lebel et Graou quand Pérez Blanc les avait surpris aux 5 mètres sur une pénalité jouée sous sol à la main. Les buteurs ont fait la différence pour ce 20-13. Tout est possible et permis pour la deuxième mi-temps que vous allez suivre bien évidemment sur 100% en direct et en intégralité comme vous en avez l'habitude. Allez, à tout à l'heure pour le coup d'envoi du deuxième acte.
Vous écoutez 100%.
Wasted in love, misunderstood. Baby, it's harder to breathe when you're gone. So I hold them my hands. Pictures of you. Dream of the day you were 8 and 2. Time.
Show me.